Bonjour, nous sommes le 30 mai 2009, après ma conférence sur le travail clinique en centre maternel que j'ai faite au GPI, groupe d'études psychanalytiques interdisciplinaires à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, dans le cadre d'une équipe que dirige le professeur Marie Hazan, qui est professeur de psychologie à l'UQAM. Alors, Marie, dis-moi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce GPI?
Le GPI, c'est le groupe d'études psychanalytiques interdisciplinaires qui a été fondé il y a 20 ans maintenant par un groupe de professeurs de l'UQAM de diverses disciplines. Et donc, il y avait des gens de philo, de sociaux, de lettres, mais en majorité des gens de psycho. Et l'idée, c'était d'arriver à trouver du plaisir ensemble, pour travailler ensemble, pour avoir des objectifs communs. Les activités du GPI sont des conférences. On fait 5 à 10 conférences annuelles. On a eu plusieurs colloques, il y a eu plusieurs publications. Je dois dire que c'est Louise Grenier qui, avec moi, dirige le GPI, puis l'a dirigé toute seule à un moment donné. Bon, on a été plusieurs à se relayer. Le GPI est a beaucoup de visibilité maintenant à cause de la liste internet que Louise Grenier dirige tout gentiment et très efficacement. Donc on a beaucoup de visibilité et c'est un groupe très dynamique et sympathique. Voilà.
Oui, j'ai pu m'en rendre compte au cours de la conférence. Le public était très, très intéressé et avait une ouverture clinique. Mais est-ce que tu peux nous donner des exemples de conférences qui ont eu lieu, par exemple?
Oh, il y a beaucoup de choses très différentes qui se passent. La dernière fois, c'était une table ronde autour d'un livre d'une collègue en études littéraires qui s'appelle Anne-Hélène Cliche. Et c'était une table ronde où il y avait plusieurs personnes qui commentaient son livre sur les écrits messianiques. Et c'est très intéressant. Donc c'est très diversifié. En général, ça peut être des propositions des personnes, comme toi-même, ou, bon, Anne-Hélène Cliche est un membre de chez nous, on a voulu présenter son bouquin, mais aussi, il y a des fois des Français qui viennent pour des colloques ici organisés, par exemple, par le Pont Freudien, puis on les invite et il y a diverses choses. La première chose qu'on a faite, si je peux l'appeler une chose, ça s'appelle Psychanalyse à l'université, où on a publié les actes du colloque. Une autre fois, j'ai organisé un colloque sur psychanalyse au cégep et à l'université. Donc on cherchait à savoir comment les étudiants pouvaient avoir rencontré la psychanalyse. Ça s'appelait psychanalyse au cégep à l'université, effet de rencontre. Et on avait été chercher les profs de cégep. Cégep, c'est les collèges. C'est une institution très spécifique au Québec, où c'est 2 années qui sont pré-universitaires, mais dans le style universitaire, où on dit que finalement les étudiants, ils font que fumer et s'amuser, mais c'est pas tout à fait vrai, mais c'est un peu vrai aussi. Et souvent, on s'est rendu compte que c'était par des profs de philo, de psycho, qui pouvaient être des profs d'autre chose, mais surtout de philo et de psycho, que se faisait la première rencontre avec la psychanalyse, de l'étudiant avec la psychanalyse. C'est ça, c'est parmi les choses qu'on a faites.
Quels sont les autres colloques qui ont été organisés ici?
Il y a eu plusieurs colloques organisés par Louise Grenier. Je parle uniquement du GPI, là. Bon, sur un psychanalyste canadien qui s'appelle Patrick Mahoney et qui a beaucoup travaillé l'œuvre de Freud. Et donc, c'était un hommage à Mahoney qui a été, et ça fait l'objet d'une publication chez Libère. Et il y a eu un autre colloque aussi, colloque sur Antigone, qui était aussi organisée par Louise Grenier, qui aussi a fait l'objet d'une publication. un autre sur la fidélité en psychanalyse. Est-ce que la psychanalyse se doit d'être fidèle ou iconoclaste? Voilà les idées qui me viennent. Sur les conférences, c'est extrêmement diversifié.
Et est-ce que ça produit des effets sur les étudiants dans leurs travaux, dans leurs recherches ultérieures? Est-ce que c'est quelque chose qui est marquant pour eux, ces événements-là?
Alors, on aime penser que le GPI a un rayonnement ici à l'UQAM. Les conférences se font à l'heure du midi ou le vendredi après-midi. Et il y a toujours du passage de diverses personnes. Oui, on espère bien que ça a un rayonnement et qu'au bout d'un certain temps, ça fait effet. Et puis, il y a un public qui est fidèle. Et puis d'autres, des étudiants qui viennent de temps en temps ou qui viennent à d'autres moments, dépendant aussi des contenus. Voilà. On a fait le lancement de notre livre qui s'appelle « L'analyste à l'œuvre, relire François Peraldi ».
Oui, tu peux nous en dire deux mots?
Alors, ce livre a été publié aux éditions Libère dans la collection Voix psychanalytique, qui est dirigée par Michel Peterson, qui est un auteur aussi dans le livre. Alors, il y a plusieurs auteurs qui sont là, mais le colloque a été organisé par Louise Grenier et moi-même, Marie Azin, où on a connu François Peraldi, on s'est connu au séminaire de François Peraldi, puis un jour on a décidé qu'on voulait faire un colloque, et après on a voulu écrire un livre avec certaines présentations. Donc, il y a plusieurs auteurs, Anne-Hélène Clich dont je parlais tout à l'heure, Isabelle Lasvernias qui était aussi commentatrice et qui est membre du GPI, qui a été aussi coordonnatrice du GPI, et elle a... et puis aussi il y a Robert Pelletier, et Louise Grenier et moi-même.
Et quel est l'apport de François Peraldi à la psychanalyse?
Alors, l'apport de François Peraldi à la psychanalyse est assez important ici au Québec. Alors, c'est parce que on a voulu... Alors, il avait un séminaire. C'était un personnage controversé, iconoclaste, etc., qui avait des idées un peu hors du commun. Et en même temps... Bon, on était classé si on allait au séminaire de François Peraldi, peut-être que je ne l'ai plus dit depuis longtemps, et parce qu'il y avait d'un côté l'ASPM.
Qu'est-ce que c'est l'ASPM ?
L'ASPM, c'est la Société psychanalytique de Montréal, c'est le côté francophone de l'IPA à Montréal, parce qu'au Québec, pardon, il y a deux branches de l'IPA, la branche anglaise et la branche francophone. Donc la Québec English, je crois que ça s'appelle, et sinon l'autre, c'est la Société psychanalytique de Montréal. Alors, François Peraldi constituait quand même une autre voie, mettons une autre voie dans les deux orthographes, à la psychanalyse au Québec, bien qu'il n'était pas le seul, je le répète, et puis il insistait pour dire que les gens de l'ASPM sont venus à son séminaire en grand nombre et selon les périodes. Voilà. Alors, il faisait un séminaire sur Lacan. Ça aussi, c'était son apport, bien qu'on peut dire que ce n'était pas un lacanien très orthodoxe, finalement, et qu'il n'était pas le seul à parler de Lacan. Bon, il faut rendre justice aux autres. Mais il a quand même fait un séminaire sur Lacan. C'est pas son seul apport. Son apport a été vraiment quand même dans la transmission de la psychanalyse, à côté de l'institution IPA, d'une sorte de transmission sans être une institution. Ça, c'est aussi le gros débat, c'est qu'il voulait beaucoup ne pas fonder d'institution, et il ne l'a pas fait, et en même temps, bon, on peut dire que c'est discutable. Voilà. Alors, tu m'as demandé tout à l'heure qu'est-ce qui existait au point de vue de la psychanalyse.
Oui, alors c'est une question que je prépare depuis le début de l'entretien. Alors, quelle est la situation de la psychanalyse? Alors, on dit au Québec, on ne dit pas au Canada, quand on parle de l'UQAM. Université du Québec à Montréal, Québec.
Oui.
Non, c'est pour le site, on va mettre ça.
Oui.
Je pose la question dans l'entretien même, comme ça, c'est... Alors, mais pas Canada.
Non.
D'accord. Alors, quelle est la situation de la psychanalyse au Québec et au Canada?
Oui, parce que c'est très différent, en fait. Hein. C'est pas seulement une coquetterie linguistique, c'est extrêmement différent. D'abord, comme je te le disais tout à l'heure, le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord où des non-médecins peuvent être psychanalystes. Là, je parle du côté de l'IPA. Je sais qu'actuellement, à New York, il y a des psychologues et des groupes de psychologues, des institutions qui peuvent appartenir à l'IPA, mais c'est nouveau, puis ils ont fait un procès pour ça. Mais sinon, la règle, c'est vraiment pas la psychanalyse laïque. Ça, c'est un point. Le Québec se caractérise quand même par sa langue, qui est le français. Sinon, qu'est-ce qui fait la spécificité de la psychanalyse?
Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce que tu me disais dans la voiture, je crois qu'il faut reprendre ça pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est-à-dire l'auditeur moyen.
Oui, de façon un peu lapidaire, je dirais un rapport particulier à l'institution. Beaucoup de gens travaillent finalement dans des petits groupes où pas seul, parce qu'on ne peut pas travailler seul, mais quand même en liaison un peu floue avec d'autres. Ça, c'est du côté de ce qu'on a appelé peut-être à tort la marge, parce qu'on disait il y a la SPM et il y a la marge. On peut dire il y a la SPM et il y a les autres. Mais on peut dire qu'il y a aussi des groupes et des regroupements qui sont dynamiques, mais qui ne sont pas très fortement institutionnalisés. Ça, je crois que ça caractérise vraiment le Québec. Peut-être une certaine crainte d'être chosifié dans une institution, c'est intéressant parce que ça rejoignait vraiment François Peraldi dans sa façon de se présenter, que lui, il cherchait à transmettre, mais en même temps, il ne voulait pas d'institution, en même temps, il ne se reconnaissait pas nécessairement dans ses disciples, entre guillemets. Ça continue à être comme ça, hein, parce qu'il est mort depuis un certain nombre d'années.
Il est mort quand ?
Il est mort en 93.
Et alors, quels sont les groupes qui existent ? Leur nom, leurs membres, leur nombre ?
Alors, j'ai déjà parlé de l'IPA. Sinon, les groupes qui existent ici, j'espère que je ne vais pas en oublier, il y a celui auquel j'appartiens, qui s'appelle la Libre Association de Psychanalyse de Montréal, la LAPM. Il y a le groupe du Pont Freudien, qui organise des conférences, qui a toujours des invités. Sinon, comme groupe, comme tel, là, je ne sais pas si j'en oublie, mais je ne crois pas qu'il y en ait tellement d'autres. Bien sûr, à Québec, il y a le groupe de Willy Apollon.
Et, qu'est-ce que c'est? Qui c'est?
Alors, le groupe de Willy Apollon a une institution qui est subventionnée d'accueil des psychotiques qui s'appelle le 381. Et il donne des séminaires lacaniens. Les Américains aiment beaucoup ça. Il y a beaucoup d'Américains qui viennent assister à ces rencontres, mais pas seulement des Américains. Donc, il y a autour de cette personne, Willy Apollon, il y a Lucie Quentin. Son nom m'échappe maintenant. Plusieurs personnes qui travaillent avec lui depuis de nombreuses années. Donc, ils ont à la fois un groupe psychanalytique et aussi une institution subventionnée d'accueil de psychotiques.
Alors, il y a aussi des gens de l'École de la Cause, j'ai entendu dire. Tout petit groupe, là, c'est le collègue là, d'Espace Analytique qui était là tout à l'heure, qui nous a raconté ça, tu vois. Le seul collègue d'Espace Analytique qui existe là, c'est M. Levé, Gilbert Levé, il m'a dit qu'il y avait un petit groupe de l'École de la Cause, c'est vrai, je ne sais pas comment il s'appelle.
Je ne sais pas à qui a fait...
Peu importe. Mais il y a combien d'analystes?
Moi, je dirais qu'il y a pas... Il doit y avoir 200 analystes.
C'est pas tellement.
Non, c'est pas tellement. Oui, je peux me tromper.
Il y a combien d'habitants à Montréal?
2 millions, peut-être.
Oui, donc c'est pas beaucoup.
Mais...
beaucoup plus de psychologues.
Analystes. Alors, c'est parce il faut différencier certaines choses. L'ordre des psychologues du Québec, qui est quand même assez hégémonique, comprend 8000 membres. Et parmi ces membres, on dit que presque la moitié serait d'orientation psychodynamique ou humaniste. Donc, il y a quand même des psychologues qui travaillent avec l'approche psychanalytique, plus ou moins, mais qui ne se disent pas nécessairement analystes. Donc, c'est comme une tendance nouvelle, je dirais, nouvelle de 20 ans quand même, que des personnes qui ne sont pas membres de l'IPA se disent psychanalystes. Ça n'existait pas avant, ça existe depuis bon, ces années-là, peut-être 30 ans, on vieillit. Oui.
Il y a des liens entre les différents groupes ?
Oui, il y a des liens. Il y a des liens qui sont des liens de collégialité et d'amitié. Il n'y a pas d'antagonisme, en tout cas. Il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de guerre. Même avec, je dis même, bon, je sais que le même est restrictif, mais même avec les gens de la SPM, bon, il y a des rapports. On va aux conférences des uns et des autres, on se fréquente, on peut être en analyse avec les uns et les autres. Tout de même, il y a aussi une question de génération. Donc, tu me posais la question tout à l'heure. Donc, beaucoup, la majorité de mes collègues ont été en analyse avec des personnes qui sont à la SPM, par la force des choses. Comme d'ailleurs les gens de la SPM, pour une certaine génération, ils ont tous été en analyse en France, par exemple, ou aux États-Unis, ou ailleurs. Donc c'est un phénomène, une nouvelle fondation.
Et dans ton groupe, alors, est-ce qu'il y a une manière particulière de travailler ? Il y a des objets qui sont spécifiques ?
Non, c'est en effet un peu... Il y a des objets spécifiques, c'est-à-dire on a des objets sur lesquels on travaille selon les années, comme on a travaillé à un moment donné sur le rêve. Là, cette année, on travaille un peu plus sur le voyage. On a travaillé aussi sur les demandes autres qui sont plus difficiles à traiter, mettons. On a un séminaire, on a aussi plusieurs séminaires qui étaient comme affiliés, dont le séminaire auquel je participais avec Daniel Pouchkas, qu'on a fondé et puis qui a travaillé plusieurs années, sur féminité, masculinité. Ça, c'était notre travail. Il y avait un autre séminaire aussi, je ne me souviens plus, et puis un atelier d'écriture.
Qui consiste en quoi ?
Les gens écrivent des textes, ils se lisent. Voilà, moi je ne fais pas partie de cet atelier, mais il me paraît très attrayant.
Et quelle est la situation de psychanalyse dans le reste du Canada ?
Dans le reste du Canada, il n'y a pas, à ma connaissance, de personnes qui sont à côté de l'institution. Alors, c'est ça. Mais ça, je dis, c'est à ma connaissance, mais s'ils étaient très nombreux, je le saurais. Voilà, c'est l'IPA. Et en plus, comme je le disais, il faut être médecin. Et peut-être psychiatre, pas toujours. Et à ce moment-là, bon, par exemple, nos collègues de Toronto, ils sont payés par l'État, par ce qui correspond à votre assurance maladie. Donc, c'est quand même une pratique qui est assez différente.
Et tu as l'occasion d'échanger sur la pratique avec ces gens-là ? Ça ne pose pas des problèmes dans leur pratique que d'être dans...
Oui. Il y a un autre groupe dont je peux te parler qui s'appelle le Lacanian Clinical Forum.
Qu'est-ce que c'est ?
Qui a été fondé, entre autres, par François Peraldi, mais par des gens d'Austin Ricks, qui est un hôpital privé psychanalytique dans le Massachusetts, un des derniers qui reste aux États-Unis. Et il y a plusieurs membres des équipes là-bas qui font partie de ce groupe. D'ailleurs, on se réunit une fois l'an au Québec et une fois l'an là-bas, à Austin Ricks, dans le Massachusetts. On est un groupe, on peut être 20 jusqu'à 30, on a diminué un peu. Mais il y a des gens justement de Toronto, des gens, on est plus de Canadiens maintenant. Il y a des gens de Toronto, du Québec, d'Austin Ricks. Et puis, bon, on a une collègue qui est latino-américaine mais qui habite en Floride. On a d'autres collègues, d'autres endroits qui viennent se joindre à nous pour ces rencontres. On se rencontre pour deux colloques annuels, mais c'est pas des colloques vraiment, c'est des présentations cliniques qui durent toute une journée. C'est vraiment très intéressant.
Quel genre de présentation clinique ? À partir de l'analyse ou à partir d'institutions ?
Ce que la personne décide de présenter, c'est la personne qui décide, c'est très ouvert, enfin ouvert, la personne décide et puis il y a une écoute absolument formidable où on présente ses difficultés et ça nous appartient de savoir si on veut présenter quelqu'un qu'on voit en privé ou dans une institution, en général c'est des patients en privé mais...
Il y a autre chose que tu fais de la supervision ici à l'université, alors ça serait d'étudiants. Oui, alors ça serait intéressant d'en dire deux mots.
Oui, on a un centre de consultation psychologique depuis, je crois, moins de 10 ans, où viennent des personnes de l'extérieur ou de l'intérieur de l'université pour une consultation. Le centre est ouvert de septembre à mai, qui est la session universitaire, et les stagiaires en psychologie en deuxième ou troisième année en psychologie, donc inscrits au doctorat, font leur premier stage sur place dans l'université et voient leurs premiers patients. En général, ils voient 6 patients par an pour une totalité d'une cinquantaine de séances, de soixantaine de séances dans une année universitaire. Ils sont filmés. Les patients les autorisent et signent. Et c'est très intéressant. Moi, j'étais réticente à ça, mais c'est un outil vraiment très, très intéressant parce que quand on voit la personne, c'est pas nécessairement l'étudiant qu'on voit autant que le patient. On a une idée totalement différente que quand l'étudiant nous en parle. Et puis, l'étudiant, pour lui, c'est un outil incroyable parce que moi, je ne visionne pas tout, bien sûr, mais eux se voient. Et pour eux, ils apprennent énormément de ça. Ils se voient tout seuls et ils voient d'abord qui ils sont. Parce que moi, c'est ça que je leur dis. Au fond, ce que vous apprenez cette année, c'est à vous autoriser et à vous reconnaître dans votre style et dans votre identité. Et c'est vraiment ça qu'ils font. Et c'est formidable. Et c'est un très bon outil, les vidéos. Sinon, on travaille en groupe de supervision. Donc voilà, on se voit comme une heure et demie par semaine par étudiant. Donc c'est amusant parce que c'est variable. S'ils sont trois, on se voit 4 heures et demie par semaine, donc sur de septembre à mai. S'ils sont deux, on se voit 3 heures par semaine parce que chacun a 1 heure et demie pour présenter. Mais alors, on est familier avec tous les patients et c'est, j'adore faire ça.
Bien, merci beaucoup Marie.
Merci à toi. Merci de m'avoir invité à parler à ton auditoire.